Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vas-y.
On est tous un peu indignés et surpris.
Carte blanche.
C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Salut Vincent, étais-tu rivé à ton écran hier en fin d'après-midi pour regarder la lecture du budget fédéral?
Comme toutes les après-midi, je regarde ma télé en regardant ce qui se passe dans le monde politique, en écoutant notamment la joute. Mais oui, c'est... Mais tu vois, t'as-tu déjà couvert un budget?
Oui, tout à fait, à Québec comme à Ottawa.
Dans les lock-up et cette journée-là, oui. Privée, oui, de, oui, cellulaire.
Le matin tôt, exact, avec le ministre qui vient de voir, qui te fait un briefing, puis tu sors à 4h ou 5h, je me rappelle,
ouais,
plus.
Oui, c'est 4h maintenant, mais tout ça, c'est moi, j'ai adoré ces oui. moments-là où j'avais le temps de penser, de réfléchir, sans me faire déranger au téléphone par oui. les Twitter et autres.
J'aimais ça beaucoup, évidemment, la pression n'était pas la même. Je pense que le besoin de produire en temps réel continuellement dans une salle de nouvelles, c'était avéré, mettons, au tournant des années 2000, mais à un degré moindre qu'aujourd'hui. Donc, ouais. L'idée d'être retiré du monde pendant quelques heures et de te concentrer sur une seule nouvelle, puis d'avoir le temps de discuter, de parler avec le ou la ministre, avec des fonctionnaires, un privilège rare. Puis dans le monde d'aujourd'hui où les choses vont encore plus vite, probablement aussi un privilège rare à chérir. Mais un budget aussi, je dirais que c'est la vérité la plus crue sur les réelles intentions d'un gouvernement, parce que c'est là que tu vois si les bottines suivent les babines. C'est la radiographie la plus intime des intentions. Je pense que c'est l'exercice de vérité. Donc, à chaque fois, c'est une manière de valider si oui ou non le gouvernement va ou tenir ses promesses ou les changer, les moduler. Et dans le détail fin, faire des choses des fois qu'il n'annonce pas ou qu'il ne tente pas de publiciser. Donc, un exercice toujours intéressant. Dans le cas de celui qui nous intéresse hier, je dirais, mais c'est probablement souvent le cas, un budget en forme de roman, 288 pages. Quand même, hein? Quelques heures en l'occurrence.
Il y a de plus en plus de mots et de moins en moins de chiffres dans ces budgets-là depuis sept ans à peu près.
Oui, c'est de la nouvelle façon ou la nouvelle façon de faire de l'économique, c'est de remplacer les chiffres par des mots. Et donc, dans ce budget qui pourrait aussi être un roman, le titre que je lui donnerais à notre roman, en paraphrasant Stendhal, je dirais, c'est le rouge et le vert. Les deux couleurs de notre avenir. En fait, plus nous verrons l'avenir en vert et plus les chances de vivre dans le rouge risquent de s'accentuer ou d'être grandes. Le vert, évidemment, la couleur de la transition vertueuse qui nous fera décarboner notre économie. D'ailleurs, c'est un vilain mot. Décarboner, je trouve ça laid. La
c'est
misère
fou, hein?
En RLD.
Ben, à chaque fois, je me dis, c'est comme décarboniser. Puis non, décarboniser, c'est non. De l'eau. C'est décarboniser,
exact.
De l'eau qui est carbonisée.
Donc, on va décarboner notre économie et la conséquence, ben, c'est évidemment le rouge budgétaire qui peut être associé à ce virage, mais aussi à toutes les décisions qu'on a prises depuis quelques années, décisions de dépenser sans trop compter. L'horizon de l'équilibre budgétaire qui était prévu pour 27-28, ça a dû être souligné ce matin avec certains de tes chroniqueurs et comme une espèce d'oasis qui nous échappe. On disait dans 5 ans, l'on dit plus tard, ceci étant dit... Le gouvernement Trudeau n'est pas le premier gouvernement à changer ou repousser la ligne des buts. C'est pas la première fois. L'équipe de M. Legault l'a fait un peu aussi et d'autres gouvernements au fédéral l'ont fait. Théoriquement, les finances du Canada sont dans un moins piteux état relatif que celles, les finances de beaucoup d'autres pays qui nous ressemblent. Ce serait donc une forme de consolation qui nous permettrait, en se comparant, de dire qu'il n'y a pas de péril en la demeure en ce moment. Il sera donc toujours temps de faire des choix difficiles plus tard. Un autre gouvernement, par exemple, pourrait les faire. Ces choix difficiles, c'est toujours le fun de les passer au prochain, de passer le POC au prochain gouvernement et de s'en laver les mains à court terme. Mais dans les faits, ça a peut-être aussi été souligné chez toi ce matin, c'est pas nouveau, c'est pas une surprise, mais la dette a quand même bondi de quoi? 500 milliards de dollars dans les deux dernières années ou un petit peu plus. Alors, à plus ou moins 0% d'intérêt, ça fait évidemment pas très mal, mais à plus de 4%, chaque nouvelle tranche de la dette que le gouvernement doit financer coûte plus cher et vient donc gruger la marge de manœuvre. Évidemment, on le comprend, c'est pas toute la dette, les 1200 milliards de dollars qu'on a de dette qui sont à financer à ce taux-là. Ça roule. Donc, c'est des tranches qui, toutes les semaines, tous les mois viennent à terme et qui doivent donc être refinancées. Mais à chaque fois, à un taux d'intérêt beaucoup plus cher qu'au moment où on a déclenché cette dernière série de dépenses costaudes, là, quand on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et tout ça, c'est sans compter le ralentissement économique qui pourrait être modeste et de courte durée. Ça, c'est le scénario souhaité. Je pense que tout le monde aujourd'hui à Ottawa reconnaît que ça nous guette. Ou alors, un scénario différent, marquer, prolonger le ralentissement économique. Et là, c'est quelque chose qui pourrait venir plomber davantage les coffres de nos trésoriers avec moins d'argent pour relancer un moteur qui cale ou qui a longtemps calé. Les risques d'un cercle vicieux sont certainement plus importants. Alors, maintenant, laisse-moi revenir à la composante verte du nouveau budget de Mme Freeland, parce que ça a été beaucoup souligné, ça aussi. On parle quand même de dizaines de milliards qui vont être dépensés au cours des prochaines années pour aider essentiellement les entreprises à négocier leur transition énergétique. Une décision, donc, de dépenser qui n'en est pas une, vraiment, puisqu'Ottawa ne fait que répondre à la pression concurrentielle que les Américains nous imposent avec l'adoption, il y a déjà un certain temps de ça, de leur Inflation Reduction Act, un gigantesque buffet all-you-can-eat destiné donc aux entreprises américaines, mais aussi étrangères qui choisiront de s'installer aux États-Unis pour bénéficier des centaines de milliards, dans ce cas-là, d'aides qui vont être débloquées, ces aides par l'administration Biden et probablement par les administrations qui vont lui suivre, des billets verts pour verdir leur économie. On pourrait dire « Let's make America green again » et convaincre l'industrie de faire de plus en plus du « made in USA », mais vert. Une toune, d'ailleurs, cette idée de faire du « made in USA » qu'on n'avait pas beaucoup entendu pendant toutes ces années où on vantait les vertus de la mondialisation. Soudainement, on ramène de la capacité manufacturière. C'est pas vrai juste aux États-Unis, c'est vrai au Canada, en Europe. Cette capacité manufacturière, on voudra qu'elle soit davantage verte, en tout cas moins dommageable apparemment pour l'environnement. Alors, revenons au vaste programme adopté, mis en place par l'administration de M. Biden, le Inflation Reduction Act. J'ai entendu rire ou sourire quand j'ai dit ça, parce que je suis certain que tu partages avec moi cette idée qu'on est vraiment dans la novlangue orwellienne parfaite, parce que le programme fait exactement le contraire.
Non, mais tu sais, t'empruntes 400 milliards de dollars pour l'injecter dans l'économie et donc stimuler l'économie alors qu'elle n'a pas besoin de stimulation. Moi, c'est ce mot-là qui me fascine.
Et c'est là que les mots sont menteurs. Inflation Reduction Act. Et c'est peut-être ici, en tout cas dans mon roman Le Rouge et le Vert, que se ferait durablement le mariage des deux couleurs, rouge et vert, dans nos finances publiques et dans nos vies citoyennes. Le Inflation Reduction Act du président est tout donc, sauf une manière ou une façon de réduire l'inflation, ça a peut-être d'autres vertus, mais sur le front de l'inflation, c'est certainement pas une réduction que ça risque d'engendrer. C'est plutôt le contraire. On vit encore en ce moment les dérèglements économiques consécutifs aux investissements à gogo qu'on a fait pendant la pandémie. Le cycle inflationniste que nos banques centrales essaient d'étouffer est certainement pas tout à fait étranger aux centaines de milliards qui ont été dépensés. Alors, l'explication pour l'inflation est toujours complexe. Il y a plusieurs variables. Je ne dirais pas comme certains que ce ne sont que les dépenses de nos gouvernements qui ont engendré le cycle, mais on ne peut pas non plus extraire ça de notre équation. Donc, il est évident que au-delà de ce qui a déjà été investi pendant la pandémie, il y a cette nouvelle manne pour la transition verte qui va ajouter peut-être au cycle inflationniste, parce qu'au-delà des dépenses de nos gouvernements, c'est le coût élevé, sinon très élevé, d'une transition verte qui va créer de l'inflation durablement. Quand je dis durablement, c'est pour beaucoup plus que les prochains mois ou les prochaines années. 10 ans. En même temps, faut faire attention quand on se fie à ce que des économistes disent, parce que c'est pas moi seulement qui le dis. Les économistes sont très, très bons à prévoir le passé. prévoir l'avenir, ça a toujours été plus difficile, donc je fais attention. Mais il y a des chances que ça arrive. Et pour une raison toute simple, le PIB ou le PNB, produit intérieur ou national brut d'un pays, c'est de l'énergie transformée. Point barre, c'est pas plus compliqué. Puis au degré le plus simple, on pourrait se dire que ben, si on avait toi et moi à travailler dans un champ de patates avec peu d'outils, ben le meilleur rendement viendrait de ce que on trouve des calories qu'on transforme en énergie au meilleur prix. Essentiellement, c'est ça. C'est quand on parle de chevaux vapeur au début du 20e siècle, ben, c'est effectivement l'énergie d'un cheval qui est transformée en énergie mécanique. Plutôt que de nourrir le cheval avec de l'avoine, c'est la chaudière de ce qui va produire de la vapeur que tu nourris avec du charbon, puis c'est encore vrai aujourd'hui, pour transporter de la marchandise, pour produire quelque chose, il y a toujours un intrant incontournable qui est celui de l'énergie. Et si les coûts d'énergie augmentent, ben les coûts de tout, absolument tout, vont augmenter dans nos vies. Là aussi, je fais très attention parce que y a des chiffres qui traînent partout. Tu sais, mais on dit qu'un monde carboneutre d'ici 2050, ça pourrait vouloir dire des investissements. Avec, il y a toujours dans des investissements des dividendes à collecter un jour, mais quand même, il faut dépenser. Certains disent de 275 000 milliards de dollars. D'autres disent c'est 1000 milliards de dollars. En fait, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Essentiellement, c'est ce qu'on peut retenir, parce que je pense que personne n'est capable de prévisionner parfaitement ces choses-là. Mais les coûts élevés de la transition, ajouterais, puis ça, il y a plus d'unanimité. 1% d'inflation au prix des 10 prochaines années. Certains disent un peu moins, d'autres davantage. Mais dans une perspective où on pense sauver la planète, on peut se dire que c'est un petit prix à payer, un peu plus d'inflation. Mais en attendant, ça signifie que les cibles de réduction d'inflation fixées par les banques centrales vont être encore plus difficiles à atteindre qu'on le pensait. La transition verte est à court et moyen terme très probablement inflationniste. C'est donc dire aussi que le service de nos dettes accumulées risque pas d'aller à la baisse. Notre niveau de vie ou nos niveaux de vie, eux, risquent fortement de l'être aussi réduits à la baisse. C'est assez inévitable. Et dans une perspective transitionniste, on pourrait dire que la baisse générale du niveau de la vie, une forme de décroissance, c'est pas nécessairement une mauvaise idée. On avait des conversations là-dessus à l'automne dernier quand on voyait l'arrivée de l'hiver en Europe puis des coûts d'énergie. Et de fait, les Européens ont été beaucoup plus frugaux, ont changé certaines choses et ont moins consommé d'énergie. Puis ils ont eu la chance, c'est toujours l'effet pervers des changements climatiques si on est accroché à ça, chance d'avoir un hiver qui a été beaucoup moins redoutable et qui a coûté moins cher en énergie. Mais c'est donc le punch de notre roman, le rouge et le vert, être dans le rouge pour se mettre au vert et peut-être aujourd'hui perçu comme une bonne affaire. S'il faut un jour changer nos habitudes de vie, réduire la voilure parce qu'il n'y a plus de place sur nos cartes de crédit au gouvernement fédéral, par exemple, on pourrait se dire que la frugalité est une bonne chose pour la planète. On pourra peut-être se rallier à ça. La seule affaire qui me chicote dans ces circonstances-là, c'est que nos gouvernements vont-ils être aussi efficaces à dépenser pour la transition verte qu'ils ne le sont dans la gestion ordinaire d'un ensemble de services où on se rend compte que c'est pas toujours optimal. Alors certains diront, ben la bonne nouvelle, c'est que c'est pas eux qui vont dépenser, ce sont des crédits d'impôt pour l'essentiel qui vont être donnés à des entreprises, possiblement. Est-ce qu'elles seront plus vertueuses? Est-ce que c'est une distribution de sommes colossales aux États-Unis, au Canada et ailleurs dans le monde qui pourront aussi participer à enrichir beaucoup ceux qui trouveront la bonne martingale, la bonne recette pour gagner? C'est aussi une possibilité. Chose certaine, je reviens à ce qu'était notre point de départ. On vit effectivement à court, voyez, et peut-être à long terme dans le monde du rouge et du vert.
Ça te ferait un très bon article de chronique, Stéphane. On se reparle demain?
On se reparle demain, promis.
Salut. Ciao.